Des accusatrices masquées, des journalistes et des intervieweurs, des animateurs certains de tenir le scandale du siècle, celui qui allait ébranler la République, et sans doute de très bonnes audiences à la clé. C'était l'affaire Allègre à la télévision avant les vacances.
J'ai pu entrevoir des mineurs dans cette pièce-là, où il y avait sur le mur des crochets.
Oui.
Et bon, je me suis pas éternisée sur la porte, quoi. Je suis vite redescendue dans la salle où
il y avait des mineurs de quel âge?
Douze, treize ans.
Alors que la jeune femme qu'on vient de voir à l'écran, une ancienne prostituée surnommée Fanny, vient de rétracter cette semaine les accusations qu'elle avait portées avant les vacances contre l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis, il est temps de revenir sur un printemps de folie médiatique, un printemps d'emballement, un printemps de révélation, un printemps de surenchère à propos de partouze, sadomaso avec actes de torture et de barbarie, à propos de pédophilie et à propos même de meurtres commandités. Michaël Richard, pour Arrêt sur Image, cet été, vous avez recueilli à Toulouse et à Paris les témoignages des principaux protagonistes de ce moment de folie médiatique. Donc nous verrons dans l'émission votre document. Olivier Mazerolle, vous êtes directeur de l'information de France 2. Et avec vous, nous reviendrons notamment sur les conditions dans lesquelles France 2 a diffusé les déclarations d'un travesti surnommé, lui, Jamel. Alors, je voudrais préciser simplement que nous vous avions invité, vous ou quelqu'un de France 2, à témoigner dans le document de Michaël Richard. Vous aviez à l'époque refusé. Nous vous avons réinvité, ainsi que Carl Zéro, à venir sur ce plateau cette semaine pour y réagir. Carl Zéro a refusé. Vous avez accepté et je vous en remercie. Compte tenu du caractère exceptionnel du sujet et du travail d'enquête d'Arrêt sur Image, cette émission est prolongée. France 5 a décidé de bouleverser sa grille et elle durera donc 65 minutes. David Abiker, vous avez regardé attentivement cette semaine les images du président de la République.
Et j'ai appris quelque chose, au moins qu'il y a au moins trois personnes qui s'intéressent encore au voyage du chef de l'État en province. Vous allez les reconnaître.
Le retour de Jacques Chirac après un été et une rentrée difficile.
Il était aujourd'hui dans Lyon, le chef de l'État qui affirme que la France ne doit plus douter d'elle-même.
Le chef de l'État a souhaité apporter son soutien à l'action du gouvernement.
Oui, il y en a au moins trois, c'est rassurant. Et c'est de bonne guerre, parce que franchement, les images de Jacques Chirac en province, c'est un peu toujours la même chose. C'est Jacques Chirac qui montre qu'il aime les enfants, ou plutôt les enfants qui montrent qu'ils aiment Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui aime les enfants, c'est les parents des enfants qui aiment serrer la main à Jacques Chirac, et puis c'est Jacques Chirac qui aime bien aussi signer des autographes. Alors, c'est des images qu'on a vues et revues, mais quand même, Jacques Chirac, il a un truc pour que les médias s'intéressent à lui. Il montre aux médias qu'il s'intéresse non pas à eux, mais aux Français, et il y parvient parfaitement. Regardez ces images particulièrement intéressantes, où le chef de l'État est concerné, même par des boîtes en carton qui ont l'air absolument fascinantes. Mais outre de s'intéresser aux gens, Jacques Chirac s'intéresse également à ce qu'ils ont à lui dire, et il pose des questions, et pour poser des questions, Jacques Chirac, il est champion.
Comment vous dites ?
Une écurie de Formule 3.
Oui, champion du monde.
Oui, champion du monde de 2002.
Jacques Chirac est également fasciné par un caméscope posé sur une table en bois. C'est vrai que c'est un caméscope intéressant. Mais surtout, le clou de ce déplacement, c'est le bidule avec ses ressorts de toutes les couleurs. Regardez comme Jacques Chirac regarde le bidule avec grand intérêt. Alors j'arrête de plaisanter et je voudrais poser une question un peu sérieuse. C'est est-ce que le patron de l'exécutif français, le premier personnage de l'État, le chef de la Ve République, est-ce qu'il est voué à s'intéresser dans ses déplacements en province au bidule ? Est-ce que c'est une fatalité ? Je crois que oui. Parce qu'il y a quelques mois, en province, Jacques Chirac, toujours en déplacement, visite une école et doit regarder, une fois encore, s'intéresser à un bidule qui fait des bulles, celui-là, il n'y a plus de ressort. Regardez comme le chef de l'État est fasciné par ce bidule. Alors, je ne sais pas si nous, on est, si le président de la République est condamné à regarder les bidules dans sa fonction. Est-ce qu'il y est obligé Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous, on est condamnés à regarder Jacques Chirac s'intéresser à des bidules à la télévision, encore au moins pour la fin de son mandat.
Merci David. On va en venir maintenant au dossier de cette émission. Comment ce qui était à l'origine une affaire criminelle locale à Toulouse est-elle devenue au printemps dernier un psychodrame national ? Avec vous, Michaël Richard, d'abord, pour commencer, une tentative de résumé.
D'abord, le socle de l'affaire Allègre, hein, c'est une série de meurtres de prostituées, non élucidées par la police toulousaine au début des années 90, police qui conclut souvent à des suicides. Et début 2003, deux anciennes prostituées, Fanny et Patricia, parlent aux gendarmes, relance ses enquêtes en affirmant que Patrice Allègre a violenté et tué des prostituées au début des années 90 en bénéficiant de la protection de la police et mettant en cause des hommes politiques, magistrats et policiers qui auraient, selon elle, participé à des soirées sadomasochistes.
Voilà. Alors, accusation d'anciennes prostituées. La presse relaye ces accusations. On va maintenant voir comment. Et on va voir comment avec l'exemple de Fanny. Alors, Fanny, je le répète, c'est cette ancienne prostituée qui, cette semaine, devant le juge d'instruction, vient de rétracter ses accusations contre Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, mais pas contre tout le monde, puisqu'elle maintient ses accusations contre d'autres protagonistes de l'affaire Allègre. Hein, l'affaire Allègre continue, et notamment l'ancien magistrat toulousain Marc Bourraguet. Alors, comment la presse, à l'époque, a-t-elle relayé les accusations de Fanny?
Les termes de la mise en cause de Dominique Baudis par Fanny ont beaucoup varié dans la presse écrite. Alors, dans Libération, par exemple, du 23 mai, on pouvait lire que Fanny dit avoir été amenée, entre guillemets, dans une belle demeure près du casino de Sally de Salah, fermer les guillemets, pour des soirées particulières en présence du surnommé Nénette, haut placé à Toulouse. Donc aucune allusion n'est faite dans l'article à qui est ce Nénette. Le 4 juin, le Parisien affirme, sans la citer, que Fanny dénonce un réseau de balais noirs et accuse le tueur Patrice Allègre et l'ex-député maire Dominique Baudis d'actes de barbarie. Le 11 juin, toujours dans Libération, cette fois-ci, la journaliste Patricia Touranchot vient de rencontrer Fanny. Elle écrit qu'après le témoignage de Patricia citant Dominique Baudis, c'est au tour de Fanny de déclarer, entre guillemets, « L'homme du Capitole me rappelle de très mauvais souvenirs, ça m'a fait très mal ». Donc le Capitole, c'est-à-dire la mairie de Toulouse, et a priori, on comprend qu'il s'agit de Dominique Baudis. Et le 19 juin, le Figaro relate qu'au cours d'une audition, Fanny a redit qu'elle aurait vu Dominique Baudis lors de soirées particulières, mais tout en affirmant catégoriquement qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact avec lui.
Bon, alors c'est vrai que ça varie, hein, selon les jours et selon les journaux, ça varie. Dans tous ces journalistes qui soit relayent les accusations de Fanny, soit la citent, lesquels l'ont vraiment rencontrée, elle ?
À l'exception de Patricia Touranchot, donc de Libération, la plupart des journalistes n'ont jamais rencontré Fanny. Mais pour certains, quand ils rédigent leurs articles, ils les rédigent sur la base des déclarations faites par Fanny sur procès-verbal devant les gendarmes.
Voilà. Alors, là, on ne va pas s'y appesantir maintenant, mais la télévision a traité les déclarations de Fanny à peu près de la même manière, c'est-à-dire sans jamais la montrer à visage découvert, mais en relayant ces accusations. Et de fait, les téléspectateurs, enfin, visage découvert, les téléspectateurs n'ont vu le personnage de Fanny que quand elle a été l'invitée de Carl Zéro. Nous y reviendrons plus loin dans cette émission. Alors, mais on va commencer donc le premier volet de votre enquête, Michaël, par la deuxième ex-prostituée, donc elle surnommée Patricia, qui a au contraire choisi de témoigner devant les caméras. Les journalistes qui l'ont interviewée à l'époque racontent dans quelles conditions ces interviews étaient recueillies.
En 1992, cette femme, Lynn Galbardi, est retrouvée morte dans cet hôtel. Patricia, une ancienne prostituée, était avec elle cette nuit-là. Elle a vu Patrice Allègre assassiner son ami.
Ils nous ont montés une par une à l'hôtel de l'Europe. On était trois filles à assister à la scène. Il l'a abattue et il l'a étranglée. Et on nous a obligés à regarder la scène avec les yeux grands ouverts.
Après deux mois d'enquête des gendarmes, le procureur vient d'ouvrir une information judiciaire contre Patrice Allègre et d'éventuels complices pour proxénétisme en bande organisée. Il prend très au sérieux les révélations de plusieurs prostituées, selon lesquelles Patrice Allègre était l'homme de main d'un proxénète et qu'il était protégé par deux policiers toulousains.
Ce qui s'est passé, le dossier a été classé. Dans la police, il y avait des personnes, certaines personnes qui étaient impliquées, qui pour protéger Patrice.
Je pense que ça participe d'une constatation des avocats de ces filles qui partent du principe que c'est tellement gros que si on n'utilise pas les médias, ça va être enterré tout de suite. Donc vous avez Catala qui tout de suite nous parle de déflagration sociale, on emploie tout de suite des grands mots, on effraie un petit peu les journalistes, on les met sur une piste énorme.
Je dis que j'ai le vertige, ce qui signifie que nous sortons d'une affaire simple pour aller vers une affaire extrêmement complexe et compliquée, qui fait froid dans le dos, même à des avocats qui en ont vu d'autres.
Derrière, vous avez une avocate qui organise une conférence de presse avec le témoin numéro 1.
Aujourd'hui, je vis plus, je dors plus, je suis la journée, je suis jamais chez moi. Nous, on a pu prouver que c'était pas un meurtre de serial killer, mais c'était bien l'assassinat d'un tueur.
C'est des pourritures qui ont tué, qui ont violé des jeunes filles de 15 ans.
Ils savaient très bien que nous, les prostituées, on n'avait pas le droit d'ouvrir notre gueule.
C'est des images, il nous les fallait, de toute façon. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ce soit à moitié vrai, il nous fallait ce témoignage.
Soit cette affaire est vraie, soit cette affaire est fausse. Dans tous les cas, je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi il y a ce torrent de boue qui s'est abattu sur la ville, ou pourquoi il a pu se passer ça à un certain moment.
C'est vrai que le jour où on y est allé, moi j'étais avec un confrère, on a fait l'interview ensemble. Le matin, il y avait des journalistes qui étaient venus. Avant nous, il y avait e-télévision. Et après nous, je pense qu'il devait y avoir, je voudrais pas me tromper, mais TF1 ou France 2. Quoi. Voilà. Donc, et que le lendemain, il y avait aussi des journalistes qui allaient venir, je pense. Et que la veille, il y avait eu France 3. Oui, non, mais voilà.
C'était des interviews à la chaîne, quoi. C'était trop. Sans aucun discernement, on prend tout le monde, on ne sait pas qui fait quoi, qui travaille correctement, qui peut-être travaille moins correctement. Et donc, c'est un enchaînement d'équipes de télé, de radio, de photographes, d'émissions, de journalistes de presse écrite. Et ça tourne comme ça sans arrêt. Et Patricia se prend au jeu très vite.
En ressortant de là, je me dis cette affaire est énorme. Cette femme m'a l'air, ma foi, assez équilibrée. Elle donne beaucoup de détails et quand elle en donne, en plus, elle dit « et le juge pourra vérifier ça ». Enfin, elle va loin dans plein de choses. Donc je me dis même pas deux solutions. Soit c'est une victime effroyable, enfin un truc effroyable, soit c'est une très bonne comédienne. Je me dis même pas ça. Je me dis « c'est énorme, c'est l'affaire du siècle, c'est un scandale républicain ».
Voilà, très impressionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces témoignages, pour être parfaitement clair, sont enregistrés début avril, hein, dans les conditions qu'on vient de raconter, au cabinet de l'avocate, mais que les télévisions qu'ils ont enregistrées ne les diffuseront qu'à la mi-mai, hein, Michael.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Patricia, effectivement, livre ses révélations aux journalistes. Elle cite parfois Dominique Baudis dans les interviews, et les journalistes sont embarrassés. C'est-à-dire que dans la mesure où ces déclarations ne sont pas recoupées. Donc la totalité des journalistes décide donc de ne pas diffuser ce témoignage, surtout quand il est question de Dominique Baudis dans la conversation, jusqu'au jour où Dominique Baudis intervient orateur de TF1.
Voilà, parce que la véritable explosion médiatique de l'affaire se produit donc le 18 mai au soir. Et ce soir-là, les téléspectateurs du 20h de TF1 ont la surprise de voir Dominique Baudis venir exposer lui-même les rumeurs dont il est victime.
J'ai appris effectivement il y a 48 heures que mon nom était cité par ces jeunes prostituées qui parlent aux gendarmes depuis, semble-t-il, 3 ans, à une époque où j'étais d'ailleurs encore député et maire de Toulouse, mais là elles ne citaient jamais mon nom. Et depuis 15 jours, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vu les documents, je sais qu'elles mentionnent mon nom, effectivement, soirée sadomasochiste, viol de mineurs. Traitement barbare infligé à des prostituées, oui. Meurtre d'un travesti.
Très grave, oui.
C'est-à-dire une affaire criminelle.
Il décide d'intervenir le lundi. Et puis, lorsque dimanche, il regarde déjà le vrai journal et Arrêt sur image.
L'ambiance devient de plus en plus lourde à Toulouse. On parle d'une rumeur. C'est un peu ça, non, Gad ?
Oui, de plusieurs rumeurs même.
Les journalistes qui couvrent cette affaire connaissent tous ces noms. S'ils se refusent tous à les rendre publics, comment les désignent-ils ?
Moi j'ai dit notable, j'ai pas dit homme politique.
Il a le sentiment que manifestement la presse sait, la presse veut en parler, que les journalistes hésitent à être celui qui va sortir le nom le premier, mais que tout ça ne va pas tenir longtemps, et il décide de prendre les devants et il intervient le dimanche. Donc il me dit le dimanche vers 16h, j'ai décidé d'avancer de 24 heures mon intervention.
J'ai pris moi-même la décision de rendre publique cette déclaration et je vous ai demandé de bien vouloir, je vous en remercie, de me recevoir dans votre journal pour pouvoir m'expliquer devant les téléspectateurs.
Étant président du CSA, on peut imaginer qu'il n'a pas trop de difficultés à rentrer en contact avec
le président de TF1. Donc il appelle Monsieur Lelay, qui est en train de faire une partie de tennis avec Patrick Poivre d'Arvor, et qui lui passe Patrick Poivre d'Arvor au téléphone. Et il explique donc sa volonté de passer au 20h de TF1, mais l'un et l'autre pensent qu'il s'agit du 20h de lundi, lui donnent leur accord pour le journal de lundi, et là, Baudis fait savoir, non, c'est très urgent, il faut absolument que je passe ce soir. Et c'est comme ça qu'il est passé dans le 20h de Claire Chazal. Je crois pouvoir dire, affirmer même, que si Dominique Baudis est allé parler au journal de 20h de TF1, c'est parce que quelqu'un lui avait dit que nous allions sortir son nom quelques jours après, en l'occurrence le lundi. Dans son entourage, il y a deux personnes qui excitaient un petit peu son aversion pour la Dépêche en lui disant « Attention, la Dépêche va sortir ton nom, c'est sûr ». Alors moi, j'ai fait, bon, j'aurais peut-être pas dû le faire, j'aurais dû peut-être dire « C'est totalement faux, mais jamais de la vie », etc. J'ai laissé planer le doute pour voir jusqu'où ce petit jeu pouvait aller. Or, nous ne l'aurions jamais fait, parce que d'un point de vue déontologique, l'ensemble de la rédaction et le directeur de la publication, Jean-Michel Baillet, nous avions tous la même position. Nous ne devons pas éclabousser des gens sur la seule foi de déclaration des personnes mises en cause.
Je pense que la Dépêche a mené campagne, il suffit de lire les éditoriaux. Elle a mené campagne pour qu'une information judiciaire soit ouverte. Elle a mis en cause Bourraguet en disant « on n'a pas dit son nom, mais on a dit un substitut de Toulouse qui était en poste à Montauban ». Il n'y en a qu'un dans ce cas-là, mais d'une manière très tartuffe, ils n'ont pas dit non.
Il y avait un ou deux personnages de cette histoire, notamment un magistrat, pour lequel, effectivement, on a permis qu'il soit reconnu, parce que la partie de cache-cache à laquelle il a joué, et sa responsabilité dans cette affaire et dans d'autres, nous paraissent un peu plus évidentes, et en tout cas de nature à imposer une véritable investigation de la justice. Et c'est un peu pour forcer la main à la justice qu'on l'a fait.
Depuis le début de l'année, les deux ex-prostituées ont été entendues séparément et à plusieurs reprises. À la justice, elles ont décrit les essayages, des pratiques sexuelles typiquement sadomaso. Entre autres participants, elles ont cité Dominique Baudis.
Vous avez parlé de Dominique Baudis ?
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Bah, que le soir de mon anniversaire, il m'a essayé.
La calomnie... Je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge.
C'est une déflagration médiatique parce que l'intervention de Dominique Baudis déclenche immédiatement des réflexes au niveau des rédactions en chef de France Info et France Inter qui ont braillé tout de suite sur ce côté énorme de la communication de Baudis. Et donc, ce qui pouvait jusqu'alors apparaître comme une affaire de provincial ou des notables étaient potentiellement mis en cause avec un tueur en série. C'était une affaire qui n'avait pas encore mûri. Là, d'un seul coup, ça devient l'affaire.
Ça a été pour moi la grosse surprise et surtout une crainte énorme qui, par la suite, je pense, s'est révélée exacte. C'est là, maintenant, on va avoir tous les journalistes de France et de Navarre sur le dos, quoi.
J'étais à Dublin pour un match de rugby, une finale de Coupe d'Europe où Toulouse, l'équipe de Toulouse était engagée. Et puis, une des demandes qui m'a été formulée, c'est de voir ce que les supporters toulousains qui étaient présents à Dublin pensaient de cette affaire Baudis. Les 15 ou 20 avec qui j'ai discuté comme ça de cette affaire ne se sentaient pas très concernés dans la mesure où ils étaient venus à Dublin pour voir un match de rugby.
Il faut imaginer ce que c'était Toulouse pendant cette période du mois de mai, et juin d'ailleurs. Tous les lundis matin, vous aviez un Airbus de journalistes qui se posait sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Et ce sont des gars qui arrivent mandatés par des rédactions avec, à la sortie, des obligations de résultats.
Nous, on le regarde toujours, nous, quand on est un quotidien régional, quand on voit comme ça la meute des Parisiens, comme un vol des tourneaux, s'abattre sur un arbre. Il y a beaucoup des tourneaux par moment, et puis ils arrivent tous ensemble, et puis d'un coup, pouf, ils s'en vont.
Les gens sont arrivés, à l'évidence, quand l'affaire est devenue, si je puis dire, parfaitement croustillante, un peu comme ces cassoulets que l'on met, si vous voulez, dans le four avec une chapelure qui semble être particulièrement appétissant. Je prends cette image parce que je suis un peu de Toulouse.
Alors on va essayer d'évoluer dans un climat serein. On va prendre le temps, pas de précipitation.
Il faut rentrer dans le bureau. Les avocats de Patrice Allègre ont convoqué une conférence de presse. Ils demandent que les personnes citées soient entendues et confrontées.
À partir du 18 mai, il y a eu une espèce de vague de fond médiatique qui est venue rechercher, d'une façon d'ailleurs assez critiquable, non pas la vérité d'un dossier, mais le fait de savoir quelle était la situation de Dominique Baudis par rapport à ce dossier.
Je reprends les expressions que certains m'ont utilisées. On aimerait. Est-ce que vous avez, certains, je me rappelle une journaliste parisienne, mais je suis venu chercher des éléments un peu glamour, un peu trash dans cette affaire. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est pas ici que vous trouvez votre bonheur.
Sur ce plateau, hier soir, à la même heure, Dominique Baudis, le président du CSA, venait se défendre d'accusations qui n'avaient pas encore été rendues publiques. Mais la rumeur empoisonnait la ville, dont il fut le maire pendant 18 ans, Toulouse, ainsi qu'un grand nombre de salles de rédaction et de lieux de pouvoir.
C'est un pari osé, parce que finalement, c'est donner de la consistance à la rumeur. Je pense qu'il a raison, humainement, parce qu'on ne peut pas vivre tous les jours en se disant est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain que ça va sortir. Je pense qu'il a raison parce que s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit il n'est pas pensable qu'il n'ait pas été au courant et il a fait l'autruche, donc il est coupable.
Je pense que c'est sa liberté. Je pense qu'à mon avis, c'est, je le dis sans aucune espèce d'acrimonie, maladroit. Je pense que c'est une sorte de, comment pourrais-je dire, d'abus, dans la mesure où la France entière était à mille lieues d'imaginer que telle ou telle personne pouvait être mise en cause. Et le fait de la traumatiser, cette France, en disant « je suis mise en cause, telle à telle affaire », j'en vois pas très franchement l'utilité.
Moi, il y a quelque chose qui me gêne, là. C'est-à-dire que parce que vous êtes président du CSA, vous avez donc une certaine influence sur les médias, parce que vous êtes une personnalité politique connue, vous pouvez, d'un claquement de doigts, vous inviter aux 20h de TF1 pour dire « je suis accusé de quelque chose, c'est totalement faux, et je vais prendre la calomnie à la gorge ». Je comprends pas ça.
C'est vrai que Dominique Baudis a eu plus de chance que le bagagiste de Roissy. Mais, en même temps, c'est pas un abus de pouvoir. Quel est le média qui aurait refusé de donner la parole à une personnalité politique mise en cause dans une affaire et qui vient le révéler. Donc ceux qui parlent de l'abus de pouvoir, ce sont finalement, pardonnez-moi, les vautours qui ont raté leur coup.
Il est connu qu'il avait demandé aux collaborateurs du CSA d'enregistrer toutes les émissions concernant cette affaire et lui-même. Ça, c'est déjà un abus de pouvoir. Et d'ailleurs, les autres membres du CSA se sont dressés et ont exigé qu'on mette fin à de tels comportements. Il y a incontestablement, dans une affaire qui est ultra-médiatisée, conflit d'intérêts entre la position de Baudis, patron du CSA, et Dominique Baudis, utilisant les médias. Ça, c'est clair. Nul ne peut le contester.
Alors, cette accusation de Jean-Michel Bailey, hein, le patron de la Dépêche, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, Michael? Est-ce que c'est vrai que Dominique Baudis a demandé que soit regardé très attentivement au CSA les extraits qui le concernaient?
C'est vrai, moi je l'ai vu longuement, il me le dit lui-même.
Dominique Baudis.
Dominique Baudis me le dit lui-même. Il demande que les émissions d'information et les journaux télévisés soient enregistrés au CSA et que tout cela soit scripté. Et c'est vrai qu'à cette période, l'homme Dominique Baudis regarde tout, lit tout, écoute tout, il entend tout éplucher et il est à l'affût de la moindre erreur des journalistes. Et lorsque par exemple Patricia est placée en garde à vue le 17 juin parce qu'on la soupçonne d'être complice de faux témoignages, Dominique Baudis va constater deux jours de suite que les journaux de France 3 ne donnent pas l'information. Donc lui, sous le coup de la colère, il décroche son téléphone, il tente de joindre Marc Tessier, le président de France Télévisions, qui est absent. Il appelle donc Rémi Lefrimelin, le directeur général de France 3, pour manifester son mécontentement. Donc il m'a expliqué, si vous voulez, qu'il se l'était reproché par la suite.
D'avoir agi comme ça sous le coup de la colère.
Voilà, exactement. Et en tout cas, dès le lendemain, dans le 12-13 de France 3, l'information sur la garde à vue de Patricia était donnée.
Voilà. Alors, ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est que Dominique Baudis vous a parlé longuement. Michael a répondu évidemment à toutes vos questions, mais n'a pas souhaité participer face caméra aux documents que vous avez réalisés pour ne pas se trouver d'une manière évidente, effectivement, dans une position de porte-à-faux. Alors, dans la même période, est-ce que vous-même ou votre propre hiérarchie, le directeur général de France 2 ou le président de France Télévisions, avez évoqué le traitement de cette affaire avec soit Dominique Baudis lui-même, soit ses collaborateurs, soit son avocat?
Jamais. Moi, jamais. Je l'ai eu une fois au téléphone, effectivement, mais à mon initiative, d'ailleurs au lendemain de sa prestation sur TF1.
Vous l'avez appelé ?
Oui, je l'ai appelé pour lui parler.
Pour lui dire quoi ?
Mais bah, parce que je voulais prendre contact avec lui, lui dire qu'en effet, cette histoire me paraissait incroyable. Lui-même m'a dit que ce n'était pas seulement incroyable, c'était une ignominie. Il a repris les formules qu'il avait utilisées la veille, au soir. Et je lui ai expliqué pourquoi nous, de notre côté, nous avions diffusé un témoignage, enfin un témoignage, une déclaration directement d'une des prostituées que nous avions en notre possession déjà depuis 2 ou 3 jours, le mettant en cause, que nous avions conservé par devers nous. Et d'ailleurs, à l'époque, moi-même, je n'étais pas à Paris, mais les journalistes qui avaient du service concerné avaient décidé de mettre cette interview sous le coude, bien enfermée dans un tiroir, pour m'en parler le lundi matin, parce qu'ils ne voyaient pas d'urgence à traiter cela, d'autant plus que...
Olivier Madre, à l'époque, ça veut dire à l'époque de l'enregistrement de l'interview, oui, ou pas oui. De sa diffusion.
À l'époque de l'enregistrement. Mais c'est 3 jours avant la diffusion. Le jour de sa diffusion, je ne suis pas à Paris non plus.
Cette interview-là, pour être très précis...
L'interview mettant en cause...
Attendez, je veux dire, elle est enregistrée le mercredi qui précède le dimanche. D'accord. L'interview dont on parle.
L'interview, c'est la première fois qu'on a une interview mettant en cause, nommément, Dominique Baudis. Auparavant, ça n'était pas le cas. Bon, et comme je ne suis pas là cette semaine-là, les journalistes du service concerné, peut-être à tort, mais ne m'appellent pas et mettent l'interview sous le coude en se disant, de toute façon, c'est une interview qui ne prouve strictement rien, on ne veut pas utiliser ça, c'est une déclaration, et on verra ça lundi matin quand le directeur de l'info reviendra.
Alors,
et puis dimanche soir,
pourquoi
survient...
Vous pensez qu'ils auraient dû vous appeler ?
Oui, parce que je préfère être informé dans ces cas-là. Mais peu importe, ça n'a rien changé. Ça n'aura rien changé quant à la réalité des faits. Survient le dimanche soir, et quand Maître Spinner dit que Dominique Baudis a eu raison de le faire, moi, je crois qu'il a raison de dire ça. Car, après tout, Dominique Baudis est lui le premier concerné par ce qui lui arrive. Et c'est lui qui réagit avec son tempérament, avec son caractère, avec... les opinions qui sont les siennes à ce moment-là. Et à partir du moment où il est le premier concerné, il est normal, il a forcément raison dans la manière dont il agit. D'accord. Simplement, il est vrai qu'en agissant de cette façon, il provoque, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, une bombe atomique médiatique ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'est plus possible de ne pas parler des rumeurs.
Bien sûr, Olivier Matrol. Alors, vous dites donc que vous l'appelez pour expliquer les raisons pour lesquelles vous avez diffusé cette interview.
Voilà.
Est-ce que vous pensez que vous auriez agi de la même manière si ça avait été n'importe quelle autre personne mise en examen ? Ou est-ce que, du fait que c'était Baudis,
oui,
il a eu droit à un petit traitement particulier ?
Il se trouve, c'est vrai que je le connais, donc c'est peut-être pour ça. Oui, bien sûr, que dans ces cas-là, il y a toujours peut-être le fait que l'on connaisse les gens fait qu'on les appelle plus volontiers que d'autres. Mais ça m'arrive aussi d'appeler des personnes qui sont concernées par certains de nos reportages que je ne connais pas.
C'est vrai ?
Et pour leur... Mais bien sûr, vous savez...
Mais pour leur dire quoi ?
On n'est pas démonstrateur. Mais pour leur expliquer, pour avoir un contact, pour leur dire des choses. Vous savez, moi, je m'aperçois très simplement que bien souvent... il y a des événements qui prennent des proportions inconsidérées ou qui dressent les gens les uns contre les autres tout simplement parce qu'ils ne se parlent pas. Et je m'aperçois que souvent, on le fait avec le médiateur par exemple tous les samedis, parfois il m'arrive après le médiateur de décrocher mon téléphone et d'appeler un des téléspectateurs qui est intervenu et je m'aperçois que ça va, ça ne veut pas dire que je l'ai convaincu, loin de là.
Au moins le contact s'était
établi. Mais au moins... D'accord. Ça montre qu'il y a un respect mutuel et que les uns et les autres, on est capables de se parler.
Très bien. Voilà. Alors, on va en venir maintenant plus particulièrement au traitement de France 2, puisqu'il y a donc eu un autre témoignage choc diffusé dans cette période-là, exploité notamment par TF1 et par France 2, celui de l'ex-prostituée travestie qui se fait appeler Jamel.
Ça vous dit quelque chose, ce lieu ?
C'est un nouveau témoin. Comme les autres, il veut rester anonyme. Nous l'appellerons Jamel. C'est un travesti. Dans les années 90, il dit que Patrice Allègre l'a fait participer aux soirées sadomasochistes, celles dont parlent les anciennes prostituées.
C'était l'entrée principale de ce que j'appelle les célébrités.
Je me suis dit, on a loupé le témoin qui va faire la différence, parce qu'en plus on était dans une situation insupportable, où on avait d'un côté des femmes qui accusent, de l'autre des gens qui démentent, un tueur en série qui est muet comme une carpe, et on se disait, mais on va jamais s'en sortir, il faudrait un témoin providentiel. Et là, le témoin providentiel arrive, et on se dit, on l'a loupé, il nous est passé sous le nez, on l'a pas vu. Et TF1, ils l'ont vu.
Ce lieu, c'est le château d'Arbas, propriété de la municipalité de Toulouse. Fanny, l'une des ex-prostituées entendues dans ce dossier, en parle aussi. Mais les gendarmes n'ont pas pu vérifier ses dires.
On n'a pas vérifié encore que le château d'Arbas a été le théâtre d'orgies supposées. Déjà. Enfin bon, on trouve le gars qui nous explique que c'est dans la pièce du haut. Ah bon?
Ici, il y avait des chambres. Et il me semble que c'était ce côté-là où les filles prostituées étaient.
Pourquoi vous nous parlez aujourd'hui?
Parce que je me dis que si des gens comme Patricia ont eu le cran de pouvoir défier la haute magistrature, voire la politique, bah, il suffit d'avoir un peu de soutien. L'union fait la force.
On a France 2, qui un peu fâché de pas avoir, peut-être un peu fâché de pas l'avoir sorti en premier, mais rajoute sa petite écaille. Et on nous sort que le fameux Jamel, il a vu Marion.
Jamel est allé encore plus loin. Dans l'une de ses soirées, a-t-il affirmé, il y a vu Marion, cette petite fille de 10 ans, disparue à Agen depuis novembre 96, et que la France entière a cherché des mois durant.
Elle s'appelait Cécilia, et son vrai prénom c'est Marion. On disait que c'était la petite Marion Wagon.
Il faut imaginer qu'il y avait quand même dans les conférences de presse de 60 à 100 journalistes, quoi. C'est quelque chose d'effarant. Et vous imaginez ces journalistes qui sont confis dans ce palais de justice immonde que nous avons ici, qui passent l'après-midi autour de la machine à café, autour de deux bancs en pierre dure, sans chiottes, il faut bien le dire aussi. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça bavarde, ça se monte le cou, il paraît que, t'as entendu dire que, etc., etc., etc. Bon, je voulais faire.
On attend devant la cellule homicide 31, qui est un fourgon avec peut-être Jamel dedans. En plus, il faut quand même savoir qu'on n'a jamais vu sa tête à Jamel, donc je ne vois pas comment, s'il y a un fourgon qui passe, pourquoi ce ne serait pas Paul ou Jacques, pourquoi ce serait Jamel. Mais bon, on reste là quand même. On n'a aucun moyen de vérifier si le fourgon qui va passer, c'est Jamel, et si on va l'amener, ça fait quand même beaucoup de suppositions, et si on sortait de Jamel, et si on l'amenait à la maison d'Arbas pour faire une reconstruction. Mais on est prêt à se dire, ben, on tente le coup et on fait le planton au cas où.
Comment informer sans calomnier? L'affaire Allègre et la mise en cause d'un certain nombre de personnalités posent le problème des limites de l'information. A-t-on le droit de porter des accusations aussi graves sans preuve? Vous êtes nombreux à vous poser la question. Vous avez également été choqué par une interview qui évoquait la présence de Marion, cette jeune fille disparue, à des soirées sado-masochistes. Florence Bouquillat, qui suit cette affaire, répondra à votre courrier.
Jamel raconte à une journaliste de télévision, je crois du service public de France 2, il lui raconte qu'il a été violé, il avait 12 ans à l'époque, hein. Il a été violé non seulement par Baudis, par Allègre, par tout le monde, mais y compris par Tony Blair. Et elle ne fuit pas, épouvantée, en disant ce type est branque.
On me présenterait Monsieur Jamel en me disant qu'il se prend pour le fils de Michael Jackson. Ça m'alerterait.
J'étais au courant de l'histoire du fils de Michael Jackson. Il est évident, quand on rencontre cette personne, qu'on se rend compte tout de suite qu'elle a, on va dire, certains problèmes psychologiques. Il faut faire très attention à une chose, c'est pas parce que quelqu'un a des problèmes psychologiques avérés que tout ce qu'il dit est forcément faux.
Mais il y a eu un ou deux soirs où effectivement, moi j'ai pété les boulons à me dire « il faut que j'ai quelque chose, n'importe quoi ». Et maintenant, avec le recul, je me dis « mais heureusement que j'ai rien eu ».
J'aurais préféré ne pas passer l'extrait dans lequel il parlait de Marion, mais moi je suis sur le terrain. Ce type d'enquête qui est très très compliqué se fait avec la personne sur le terrain et se fait aussi bien sûr avec la rédaction à Paris. Nous avons eu donc une discussion et la hiérarchie de la rédaction a décidé qu'il fallait quand même passer ce témoignage sur Marion parce que c'était un ensemble de choses, que ses propos sont attribués à Jamel. Et que ce n'était pas à nous de décider où il disait vrai et où il disait faux. Ce qui m'a paru effectivement être une décision qu'on pouvait se comprendre.
Franz Bouquilla a été entendu par les gendarmes pour, dans le cadre de l'enquête, pour dénonciation calomnieuse visant Patricia, Jamel et autres. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est tout.
Les pièces du dossier en fait indiquent que la journaliste de France 2 aurait à la fois organisé une rencontre entre Patricia et Jamel, qui, à mon sens, n'était pas la première rencontre. Jamel et Patricia s'étaient rencontrés avant toutes ces histoires. Mais en tout cas, elle organise une rencontre entre les deux. Elle les convoie apparemment jusqu'à Toulouse. Elle paye l'hébergement, elle paye les frais de restaurant. Voilà, donc en fait, elle assure l'intégralité des frais payés par France 2. Tous les journalistes payent des repas à des informateurs, des sources, des témoins. Ça, ça fait partie du jeu, quoi. On offre un déjeuner, on offre un dîner, on discute, on fait des interviews. Ça se passe comme ça. Mais là, de régler comme ça, à plusieurs reprises, l'intégralité de frais sur plusieurs jours, des frais d'hôtel, des frais de restaurant, etc., ça me semble un peu dangereux, quoi. Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que la répétition de ce paiement de frais n'implique pas, est-ce que ça ne représente pas un petit achat déguisé d'interview ?
C'est vrai que ça ne nous fait pas plaisir non plus à nous d'être abusés. Maintenant, présenter des excuses, je ne sais pas, on fait notre travail. Et parfois, il nous arrive de nous tromper, bien sûr, c'est évident.
Disons qu'on est allé peut-être un peu trop vite en besogne en ce qui concerne cette forte présence de Jamel dans cette affaire. Et que peut-être que nous aussi, on s'est laissé manipuler.
C'est une sorte de délit de coups et blessures volontaires ou involontaires contre cette affaire. Alors involontaire dans la meilleure des hypothèses, je m'y plais, je pense que c'est ça. Volontaire, ce serait terrible, mais le résultat est le même. Il y a un blessé. Le blessé, c'est l'affaire Allègre. C'est le dossier Allègre, dans sa globalité.
Je pense que dans une rédaction, il n'y a pas des électrons libres, qu'il y a ensuite un rédacteur en chef, il y a un directeur de l'information, et que tout ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Et je pense que ça n'a pas d'intérêt de se polariser sur telle ou telle personne, même si certains ont été, si j'ose dire, plus performants que d'autres.
Bon, alors ça, c'est directement pour vous, Lévi Mazerolles, on l'aura compris. Alors, plusieurs choses. D'abord, la première, ce qui semble avéré dans cette sombre affaire, c'est que effectivement, votre journaliste, Florence Bouquillat, a payé plusieurs nuits d'hôtel, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois, les témoignages divers, au témoin Jamel. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de cette affaire, des circonstances dans lesquelles elle a été amenée, effectivement, à passer trois jours avec Jamel?
C'est pas trois, mais peu importe.
C'est combien ?
Ce qui compte, c'est tout simplement le fait que je peux vous dire que je ne sais pas ce qu'elle a payé exactement, puisque je n'ai que ses déclarations à elle et que moi, je n'ai pas mené d'enquête de police. Ce que je sais en revanche, c'est qu'à aucun moment, France 2 n'a été amenée à connaître de frais d'hôtel pour d'autres personnes que Florence Bouquillat.
Ah bon, elle n'a pas donné de note de frais en...
Non, mais non, parce que évidemment. Ça nous aurait peut-être mis la puce à l'oreille.
Mais de toute façon, Olivier Mazerolles, vous êtes journaliste. Sans mener d'enquête de police, on imagine que vous l'avez questionné.
Alors attendez. Sur cette histoire simple, il se trouve que Florence Bouquillat était chargée de cette affaire, du traitement de cette affaire, depuis très longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'autres épisodes bien antérieurs, il y a plusieurs années. Bien. Elle a fort bien travaillé. Et puis il y a eu un moment où, en effet, j'ai été informé par Maître Spinner, d'ailleurs, qui venait participer à une émission mots croisés.
Ah bon.
Attendez que je vous dise pas de bêtises, le 23 juin, je crois, que il y avait eu ce comportement un peu particulier d'une de nos journalistes. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Le lendemain 24, elle était dans mon bureau avec ses chefs de service et je lui ai demandé ce qui s'était passé.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Elle me raconte tout, qu'effectivement, donc c'est vrai, oui, elle a emmené à l'hôtel, bon, très bien, et à ce moment-là, je lui notifie par écrit qu'elle est déchargée de la couverture de cette enquête. Voilà les faits, très simplement. Pour le reste, je n'irai pas plus loin la concernant, parce que je crois qu'effectivement, il y a eu un dérapage de deux ou trois jours la concernant, notamment aussi, effectivement, de ne pas nous informer des propos que Jamel tenait hors micro, et qui auraient peut-être, en effet, pu inciter à mieux comprendre à qui nous avions affaire.
C'est-à-dire que, clairement, quand Jamel prétend être le fils de Michael Jackson, Florence Bouquillat ne l'a pas dit avant diffusion de son interview.
Pas avant la diffusion. Mais voilà,
personne de la rédaction de France 2.
Moi, je n'entends pas traiter de son cas ici parce que ce que j'ai à lui dire, je le lui dis en tête à tête devant.
C'est intéressant pour ce que ça montre du fonctionnement de la rédaction.
Il y a eu un dérapage. Mais en tout cas, voilà, la décision, elle est prise. Vous savez, c'est très simple. Quand quelqu'un dérape, eh bien, il y a immédiatement une prise de décision qui est donc de la décharger de l'enquête. Et je vous prie de croire que décharger un journaliste d'une enquête, ce n'est pas une petite décision. Voilà. Pour le reste, Marion ?
Oui.
Vous voulez qu'on parle de Marion ?
Alors, on va en parler simplement une question. Quand elle intervient dans l'émission du médiateur, Florence Boutillat dit que c'est sa hiérarchie qui lui a demandé justement d'inclure le témoignage de Marion.
Il y a un autre passage dans le médiateur que vous n'avez pas diffusé, mais peu importe, c'est pas
l'objet. Elle dit le contraire ?
Non, elle ne dit pas le contraire, mais elle dit qu'il n'y a pas eu de contradiction entre la hiérarchie et elle.
Oui, voilà. Enfin, bon,
ce qu'elle dit là à la fin, ce qu'on comprend à la fin.
Non, mais peu importe. Enfin, ce qui se passe en Paris.
Alors, c'est sa hiérarchie qui lui a demandé de rajouter Marion dans le.
Non. Cette interview, elle est enregistrée plusieurs jours avant qu'elle ne soit diffusée. Bon, déjà, c'est une chose importante, je pense, parce que là aussi, on a le sentiment, quand on écoute tout le monde, qu'il y a une précipitation, que les vautours arrivent, qu'il faut absolument tout sortir tout de suite. Non. L'interview, elle est réalisée bien avant, deux ou trois jours avant, je ne sais plus exactement, qu'elle ne soit diffusée.
Avec la partie du témoignage qui concerne
Marion. Bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe deux choses. D'abord, le samedi, les gendarmes s'en vont effectuer des perquisitions à La Rochelle, et ce n'est pas des perquisitions ordinaires, c'est-à-dire avec un déploiement de forces extraordinaire. Ils étaient 30 ou 40, par hélicoptère, et donc ils sont transportés, tout à fait cessantes, à La Rochelle. Donc on a, à ce moment-là, le sentiment, et plus que le sentiment, que les enquêteurs apportent du crédit à ce que dit Jamel, et que donc, à ce moment-là, il est normal d'utiliser l'interview de Jamel. Arrive le cas simplement de Marion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le vendredi, c'est-à-dire la veille de la diffusion, le service Information Générale a décidé d'envoyer une journaliste rencontrer les parents de Marion. Et donc, il y a cette rencontre. Et à ce moment-là, ils sont informés que nous possédons cette interview. Bon, ils disent à notre journaliste ce qu'ils en pensent. Et le lendemain, la même journaliste.
Et qu'est-ce qu'ils disent à votre journaliste ?
Ils disent qu'ils ne savent pas, qu'ils n'y croient pas. Voilà, vous savez.
Ils ne sont pas très pour la diffusion.
Oui, mais ils ne disent pas non plus qu'ils s'y opposent.
Ouais.
Non, mais ils ne disent pas. Attendez. Mais je vais vous dire ce que je pense de cette affaire au fond. Mais vous me demandez comment ça se présente. Donc je vous l'explique. Vous savez, moi, j'ai rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. À l'inverse, le samedi, quand on sait qu'on va utiliser cette interview, la même journaliste rappelle, et tombe, je crois, sur la maman, pour lui expliquer que nous allons utiliser l'interview et diffuser la partie concernant Marion. Voilà, bon. Et à ce moment-là, même réaction que la veille. Bien. Simplement, il y a donc une discussion entre ce qu'on appelle la hiérarchie et Florence Boutillat sur cette histoire. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Si on pouvait remonter le temps et se dire qu'on pouvait de nouveau prendre la décision, ce n'est pas cette décision-là que l'on prendrait. Je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de regarder ce que vous avez montré tout à l'heure pour que dans la rédaction de France 2, on en parle. Et tous, nous souhaiterions hautement ne pas avoir diffusé ce passage. Simplement, je dis « nous » et je ne dis pas et je ne mets pas en cause ceux qui ont pris cette décision. Pourquoi ?
Parce que vous êtes leur chef. Donc vous
l'assumez. D'abord, je suis leur chef. Donc d'une part, j'ai à l'assumer. Et puis deuxièmement, je ne l'assume pas uniquement pour une question de principe. C'est que les deux journalistes qui, ce jour-là, étaient en charge, sont des journalistes très expérimentés, très compétents, qui, dans des conditions parfois bien plus difficiles encore que celles-là, ont pris des décisions que personne n'a jamais contesté.
Excusez-moi, pour que les téléspectateurs
nous avons commis une erreur d'appréciation et il aurait été hautement préférable et c'est très regrettable que nous ayons diffusé ce passage et je préférerais ne l'avoir jamais entendu sur mon antenne.
Quand vous parlez de deux journalistes, vous parlez de la hiérarchie, Olivier Mazerolle, pour que ce soit bien clair. Des deux journalistes qui ont décidé
chef
de diffuser.
Et un responsable de service. Voilà.
La hiérarchie.
Bon, mais cela. C'est moi, en fait, qui les représente ici, et j'assume totalement ce qu'ils ont fait, même si aujourd'hui, je peux vous dire que bien avant, ils sont partis en vacances, l'esprit taraudé par cette affaire-là, en se disant, mais pourquoi, comment, mais le processus, je ne vais pas rentrer ici dans tout le déroulement du processus, mais il a été suivi tel que, d'habitude, nous procédons dans une rédaction. Et je voudrais finir.
On a bien compris, alors je voudrais simplement pour terminer, on a bien compris les mécanismes de la décision. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout bêtement un problème de concurrence ? C'est-à-dire que les gens de chez vous à France 2 ont vu que TF1 avait diffusé le témoignage de Jamel, donc ils se sont dit, oh là là,
mais on l'avait quand
mais TF1... Mais oui, mais ils l'ont diffusé avant vous.
Mais quand TF1 l'a diffusé, nous l'avions ce témoignage.
Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation, Olivier Mazerolle, est-ce qu'il n'y a pas eu la tentation d'en rajouter un peu ?
Trois jours, mais pourquoi ? Si on avait la tentation, on n'attendrait pas 3 jours pour le diffuser. Si on le diffuse, c'est parce qu'il y a ce contexte d'une perquisition extrêmement développée. Et je voudrais ensuite insister sur un autre plan, puisque quand même il y a les médias, etc. C'est dire que sur toute cette période où il y a eu le traitement de cette affaire à France 2, entre le 18 mai, date à laquelle Dominique Baudis se rend sur TF1, et le 19 juin, pourquoi je prends le 19 juin? Parce que le 19 juin, c'est la période où Patricia est mise en examen, où l'affaire prend une autre tournure par rapport à Dominique Baudis. C'est-à-dire on commence là à voir apparaître officiellement des éléments qui le dédouanent. Nous ouvrons deux fois le journal, deux fois les journaux, 13h, 20h, deux fois. Sur 62 journaux, nous ouvrons deux fois sur l'affaire Baudis.
C'est-à-dire que vous estimez que
vous
avez
été modéré. Sur l'affaire Baudis-Allègre. Sur l'affaire Baudis-Allègre, ou Alec Baudis plus exactement.
Et vous n'en avez pas rajouté.
Oui, je dis qu'on n'a pas rajouté. Et donc, nous avons commis cette erreur sur Marion, qui est hautement regrettable et qui est très cruelle. Je voudrais dire quand même que le fonctionnement d'une rédaction, ça n'est pas un dérapage constant. Ce jour-là, nous avons commis une erreur. Je la regrette profondément. Nous la regrettons profondément. Mais n'en citez pas d'autres, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et je mets au défi quiconque de pouvoir trouver un élément qui fasse que France 2 ait jeté en pâture à l'opinion publique le nom de quelqu'un qui aurait été soupçonné d'avoir commis quoi que ce soit dans cette affaire. Nous ne l'avons jamais fait.
D'accord.
Et je vous rappelle encore une fois que l'interview de Patricia, nous l'avions depuis 3 ou 4 jours à disposition lorsque Dominique Baudis de la TF1 et on l'avait mise.
Et vous avez attendu que Baudis passe à TF1, Miguel Richard.
Mais vous dites que la concurrence n'a pas joué. Ce n'est pas vrai, puisque moi, les informations que j'ai, c'est que TF1, qui avait interviewé Jamel, apprenant que France 2 était sur le coup, entre guillemets, décide de devancer France 2 en le diffusant dès le jeudi soir. Donc ça, c'est Michel Fine qui prend cette décision-là.
Journaliste de TF1.
Journaliste de TF1. Et par ailleurs, ce que je sais aussi, c'est que quand vous vous apercevez aux 20h de TF1 que ce témoignage est diffusé...
De France 2. Ah non, 20h de TF1,
aux 20h de TF1 que ce témoignage est diffusé... je suis désolé, mais Florence Boukia reçoit un coup de fil de la rédaction qui est mécontente, qui cherche des explications et on lui met quand même la pression. Comment se fait-il qu'on n'ait pas, alors qu'on a déjà l'interview enregistrée le mercredi, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas sortie?
Et on met la pression, excusez-moi, il faut quand même, la concurrence, elle joue un rôle, mais
d'accord.
Pardon, je répondais à une question précise. N'avez-vous pas eu envie d'en rajouter pour des raisons de concurrence? C'est à ça, et je dis non. Maintenant, si vous me dites que la concurrence existe, mais elle existe, vous croyez qu'elle n'existe pas entre Arrêt sur Image et d'autres émissions? Évidemment qu'elle existe. Et c'est d'ailleurs parfois un stimulant qui permet aussi d'avoir des informations. Quand un journal sort une affaire qu'il faut absolument sortir, parce que ça arrive aussi que les informations ne sortent pas pour d'autres raisons, ce n'est pas l'histoire à l'air en l'occurrence. Donc on est bien content dans un pays démocratique comme le nôtre qu'il y existe une concurrence. Mais quand vous dites la pression, ça n'est pas la pression. Il est tout à fait normal, quand on voit qu'un élément apparaît sur un autre média, qu'on dise à un journaliste, alors est-ce que tu l'as en ta possession? D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà.
Voilà, concurrence, pression, Olivier Madre, concurrence, pression du sens des mots. Un dernier mot avant de vous laisser partir. Vous venez de parler d'arrêt sur image. Alors là, je dois à nos téléspectateurs une petite explication et aussi des questions. C'est-à-dire que cette émission, la nôtre, celle que nous faisons en ce moment, devait être diffusée la semaine dernière. Alors, j'ai accepté la semaine dernière de la reporter à la demande de la chaîne, à la demande de France 5, pour des raisons invoquées par France 5 d'actualité et de format d'émission. Bon, voilà. Et alors, là-dessus, voilà qu'on a lu dans la presse, notamment dans Libération, que c'est vous, Olivier Mazerolle, mécontent que nous traitions du traitement par France 2 de cette affaire. Alors, qui seriez intervenu auprès de notre président commun, puisque nous avons un président commun qui s'appelle Marc Tessier, qui est président de France Télévisions, pour demander, exiger que cet arrêt sur image soit déprogrammé. Alors, ma question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous-même, ou quiconque à France 2, attendez, je peux finir ma question?
Oui, bien
ou
sûr,
quiconque à France 2 est intervenu auprès du président de France Télévisions pour faire reporter ou déprogrammer arrêt sur image?
Il y a beaucoup d'inepties qui sont racontées.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Et notamment celle-là. D'abord, vous savez très bien, pour des raisons que vous connaissez comme moi, que je n'ai pas mis les pieds à arrêt sur image depuis 2 ans. On va parvenir sur les raisons.
Ça n'empêche pas de passer un coup de fil à Marc.
Attendez. Et si j'ai pensé qu'il était utile que je vienne, puisque tout à l'heure, vous l'avez indiqué, dans un premier temps, j'avais dit non, et là, j'ai accepté de venir. J'ai accepté de venir parce qu'entre autres inepties, j'ai lu dans Libération que ça pouvait me rendre service que cette émission ne soit pas diffusée. Alors, si je suis venu, c'est précisément pour dire que ça ne me rend ni service ni pas service et que je n'ai rien à craindre. Vous savez, on peut commettre des erreurs, et je suis le premier à les reconnaître quand nous commettons des erreurs. Vous savez, d'une certaine manière, moi je ne savais même pas que vous aviez l'intention de diffuser votre émission dimanche dernier.
Vous avez demandé un rendez-vous et une interview.
Mais je ne savais pas que c'était programmé pour dimanche prochain. D'accord. Je n'en sais rien. Et pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, en général, quand je reçois une demande d'arrêt sur image, je fais toujours la même réponse, c'est non, point, et je ne m'occupe pas de ce que vous faites. D'accord. Alors, donc, maintenant, un jour, on expliquera peut-être aux téléspectateurs pourquoi, mais je ne m'occupe pas de ce que vous faites. Par conséquent, je ne savais pas, je l'ignorais totalement, et je vais vous dire, je m'en foutais royalement. D'accord. Simplement, quand je lis dans un journal, en apprenant ça, vendredi, en lisant Libération, et samedi surtout, que c'est pour me rendre service, parce que j'aurais peur, mais peur de quoi, grand Dieu ?
Très bien. Donc, sur ma question précise, Olivier Mazerolle, vous n'êtes pas intervenu, ni personne de France 2, auprès du président de France Télévisions.
Mais je suis dans l'ignorance totale que vous avez l'intention de diffuser ça ce dimanche-là.
Ni à votre connaissance, personne d'autre à France 2. Par exemple, le directeur général,
monsieur... À ma connaissance, personne de France 2 n'est intervenu. Mais personne n'est intervenu. Attendez, d'abord, ce serait très maladroit.
Je vous le fais pas dire. Mais enfin, on est maladroit.
Ça serait de toute façon extrêmement maladroit, parce que tout se sait de nos jours, et c'est très bien ainsi. Et donc, grâce à cet épisode, cette émission-ci est peut-être plus regardée qu'elle ne l'aurait été en temps ordinaire.
Et grâce
donc
à votre brio.
Ça serait une couillonnade magistrale que d'essayer d'empêcher quoi que ce soit. D'ailleurs, empêcher quoi que ce soit, moi je trouve ça très intéressant. Sur les médias, globalement, oui, bien sûr, qu'il y a une véritable interrogation à avoir. Parce que c'est vrai que nous sommes constamment soumis à cette contradiction. Il y a d'un côté, il faut informer, et de l'autre côté, en informant surtout sur ce genre d'affaires, effectivement, nous sommes bien souvent amenés, c'est le cas pour Dominique Baudis, mais il y a aussi des gens qui sont effectivement tout à fait inconnus du grand public, à donner des noms. Eh bien, moi, je souhaite qu'il y ait effectivement, au sein de la préfection, une réflexion là-dessus, c'est-à-dire qu'on puisse voir s'il y a matière à améliorer les choses. Mais je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que
Olivier
ce soit facile.
Olivier Mazerolle, si vous souhaitez qu'on prolonge ce débat un autre jour, ce sera avec plaisir que nous vous recevrons à nouveau sur le plateau d'arrêt sur image.
C'est important.
Donc d'autres invitations seront lancées très prochainement. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Alors, dans cette chasse aux scoops, d'autres chaînes ont été aussi impliquées, par exemple Canal+, à travers l'émission de Carl Zéro, alors qu'il l'a traité plusieurs semaines successives. D'abord, en lisant à l'antenne une lettre que de Patrice Allègre, dans des conditions mal connues d'ailleurs, lui avait fait parvenir de sa prison. Les semaines suivantes, Carl Zéro recevait et interrogeait les ex-prostituées.
C'était une maison, il se passait quoi ?
Il y avait une pièce qui était réservée aux séances SM. Là-dedans, il y avait des soirées. C'est là-dedans qu'il faisait les soirées SM, avec des gamines, des mineurs, des prostituées, travestis, homos, il y avait tout.
Il y a, dans la joie qu'a Monsieur Zéro d'exhiber comme un montreur d'ours ses témoins, entre guillemets, il y a une telle satisfaction d'être celui qui montre qu'on en oublie de faire le travail du journaliste qui consiste à dire, bien, est-ce que ça résiste aux faits ? Est-ce que ça résiste à ce que l'on sait ? Est-ce que ça résiste à la chronologie ? Est-ce que ça résiste à d'autres versions ? C'est-à-dire, c'est le degré zéro de l'information, ce qui est logique, finalement.
Carl Zéro est aussi à sa place pour recevoir une prostituée que Michel Drucker pour recevoir Raffarin, quoi. Ça procède du même pastiche de pseudo-informations, mélange d'actu, c'est à la fois people, informatif, on est dans le brassage là.
Est-ce que tu as entendu parler ou vu des enfants? Je parle vraiment d'enfants de 10 ans, 12 ans.
Oui, bien sûr, sur le trottoir, ça se disait que dans ces séances, bien sûr, il y avait des gamins, des gamins d'âge, je dirais, entre 10 et 15 ans. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est à cette époque-là, c'était comme ça qu'ils en parlaient, quoi. Donc ce qu'on appelle chair fraîche, c'est des petits garçons et des petites filles.
Elle ramène ces histoires d'enfants dont, je suis désolée, elle n'avait pas parlé sur PV avant. Elle a parlé de gamines mineures qui disparaissaient du trottoir ou qui avaient été embarquées dans des soirées sadomaso. Et certes, elle a parlé de gamines de 15-16 ans. Et chez Carl Zéro, elle nous ramène des enfants. Cette affaire chez Carl Zéro devient une vaste affaire de pédophilie avec plein de petits-enfants. Voilà, l'affaire du trou en France.
C'est la seule fois où tu as assisté à une scène de pédophilie.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'il y a des disparitions inélucidées d'enfants qui sont dans cette histoire-là, dans ce réseau-là ? Est-ce que tu penses que Patrice, puisqu'on a des relations de correspondance et qu'il nous regarde aujourd'hui, va se mettre à parler des enfants? Est-ce que tu penses qu'il pense aux parents des enfants qui ont été kidnappés?
Moi.
Toi, tu me dis que tu as entendu parler d'enfants, que tu as vu des enfants dans des voitures. Est-ce que il y a d'autres personnes dans ce réseau, je veux dire, qui sont aujourd'hui toujours vivants et qui ne sont pas forcément en prison, mais qui pourraient raconter des choses?
Je trouvais qu'il était dommage que Carl Zéro ne soit pas un journaliste et qu'il n'ait pas travaillé un peu avant le dossier, qu'il n'ait pas regardé ce qui était dit dans la procédure, qu'il n'ait pas cherché ailleurs un petit peu les vérifications pour pouvoir contrer Patricia, la mettre aussi face à des contradictions, plutôt que de tout gober et comme ça, de la laisser, de lui donner une tribune.
Ces soirées, il se passait des soirées sadomaso entre adultes.
Oui.
Il y avait des trafics de bijoux, de cam, ça envoyait en l'air tout ça.
Est-ce que les médias en font trop, et à commencer par moi? Parce que quand j'ai un document comme ça, je me demande évidemment si je dois le diffuser ou pas. Donc je suis allé le recueillir, et la fille est quand même extraordinairement crédible.
Je connais des journalistes, ils ont des aveux, ils le vérifient, ils le confrontent à la réalité du dossier, ils essayent de comprendre. Il cherche d'abord à établir, pas comme le ferait un juge d'instruction, c'est pas le même métier, mais au moins avec le même souci de la rigueur intellectuelle. Quand on n'a aucune rigueur, il arrive des dérapages, et c'est ce qui est arrivé à M. Carl Zéro.
Si Fanny donc accepte de marcher avec Carl Zéro, c'est par l'intermédiaire de Patricia, qui lui conseille, qui lui explique, il faut que tu vois Carl, c'est un mec génial. Et en fait, c'est Patricia qui apporte Fanny à Carl Zéro.
Préserver dans un tel tohu-bohu médiatique un témoin qui semble avoir une certaine importance, le mettre à l'abri alors qu'elle n'est pas aguerrie de toutes ces sollicitations, ça me paraît maintenant, à la réflexion, une chimère. Une sorte d'utopie.
Elle a fait affaire ensuite avec Carl Zéro pour un livre, puisque Fanny a touché 15 000 euros, partagés à moitié apparemment entre l'éditeur Ramsay et la société de production de Carl Zéro. Donc Fanny, qui avait effectivement, moi quand je l'ai vue, une bagnole cassée, enfin elle avait pété un truc dans sa voiture, qui a quatre petits gosses à trimballer dans sa voiture, qui a pas trop de sous.
Il est vrai qu'on l'a jamais aidée matériellement, il est vrai qu'on ne s'est jamais soucié de savoir comment elle pouvait venir de l'endroit où elle habite auprès du juge d'instruction, quelles pouvaient être les indemnités qu'elle pouvait percevoir, le défraiement, ce sont des choses qui n'ont préoccupé personne. Il est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut imaginer que des chansons bien chantées peuvent attirer tel ou tel comportement.
Fanny, elle a bien raison d'accepter. Elle s'est payé un petit espace.
Est-ce que vous êtes interrogé longuement avant de diffuser ou non ce témoignage?
Oui,
est-ce que vous avez failli ne pas le diffuser, honnêtement?
On s'est interrogé extrêmement longuement, et votre simple présence dans le cadre du vrai journal, c'est un peu inhabituel, prouve qu'on continue à s'interroger.
J'ai une question, une toute petite question, mais je pense qu'elle ne passera pas. C'est pas grave, mais je vais la poser.
Vas-y.
Est-ce qu'elle vous a demandé un peu d'argent ou des avantages?
Non,
elle
n'a
rien demandé.
Non. Alors, dans cette émission spéciale du vrai journal, Carl Zéro démenté qu'il y a eu versement d'argent à Fanny. Y a-t-il eu versement d'argent par Carl Zéro à Fanny?
Voilà, parce qu'à ce moment-là, il le dit effectivement. Et pourtant, peu de temps après, il reconnaît dans Le Parisien que 15 000 euros ont été versés à Fanny pour l'écriture d'un livre de souvenirs. Cette somme ayant été versée, là, c'est dit dans Le Canard enchaîné, à moitié par la société de production de Carl Zéro et l'autre moitié par les éditions Ramsay.
Voilà. Ouais, c'est dit dans Le Canard enchaîné, mais est-ce que Carl Zéro le reconnaît lui-même?
Il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît lui-même dans Le Parisien, comme on l'a vu dans l'article précédent.
Très bien.
Voilà.
Alors, dernier volet de cette enquête, il peut arriver, on l'a vu, que les vedettes de la télévision ou les envoyés spéciaux dérapent. Ça peut arriver aussi à des journalistes de terrain. L'exemple de Nicolas Fichot, ex-correspondant du Monde dans le Sud-Ouest, très bon, trop bon peut-être, spécialiste du terrain, qui a livré dans un article des détails épouvantables et très vraisemblablement imaginaires.
Rappelez-vous dans Le Monde l'histoire de la Maison du Lac. Jean-Paul Besset, notre journaliste dont j'ai oublié le nom, nous décrive une maison avec des anneaux à 40 cm de sol pour attacher les enfants, une moquette visqueuse sûrement imprégnée de sang. C'est une invention pure et simple. Ils ont été manipulés par une bande de mecs. Je ne pense pas qu'ils l'ont fait volontairement, mais comment des journalistes, un journal de référence comme Le Monde, ne vérifient pas leurs informations? Mais où on va, quoi? On peut dire n'importe quoi.
Vous êtes allé voir celui ou ceux qui sont rentrés dans la maison?
Oui. J'ai vu... un gendarme qui est rentré dans la maison, officieusement. Il n'a pas le droit de dire officiellement qu'il est rentré dans la maison. Je joue sur les mots peut-être, mais je veux pas le foutre aussi dans l'embarras.
Quand vous écrivez, quand vous parlez de sang dans votre article et que vous l'écrivez, vous êtes allé un peu loin ou pas?
Non, je crois pas. Elle, elle dit à certaines personnes, parce que j'ai pas l'article en main, et puis bon. Mais je crois que dans l'article, je ne dis pas c'est du sang, je dis qu'elle, elle dit que y a une subtilité dans l'article. Elle, elle dit qu'à son avis, ça pourrait être du sang. Je crois que c'est ce qui est écrit. Il faudrait vérifier. Je m'en souviens pas. Je ne dis pas c'est du sang.
Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais je l'ai là, en fait.
Ouais.
Je peux vous dire ce qu'elle dit
voilà.
Exactement. Attendez. Ah, voilà. Ces moquettes de ton gris étaient couvertes de taches brunâtres que la propriétaire a identifiées comme du sang séché.
Ouais. Aurait identifié. Elle y a pensé.
Quand vous écrivez « Des employés de l'hôtel de l'Arche ont indiqué au Monde qu'à plusieurs reprises, des draps ensanglantés avaient été apportés pour y être lavés dans la machine de l'établissement. »
Oui.
Donc c'est des employés de l'hôtel de l'Arche
oui.
qui vous donnent ces informations.
Oui.
C'est ça.
Oui. Ça, enfin, parce qu'il n'y en avait pas 40. Et ce sont des amis des employés. Vous savez, quand une employée dit à un dîner, tiens, c'est marrant, avec des amis, j'ai encore lavé des draps plein de sang qu'a amené la femme. Pas de sang, de taches bizarres, de sang, ça partait pas sur la petite machine, alors ils l'ont amené à l'hôtel pour que ça parte. Si elle le dit à deux autres amis, ça va circuler dans Noé. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, si c'est dit raisonnablement, sans engeance et sans envie de nuire, on peut se dire qu'il y a peut-être du vrai.
Qui vous parle par exemple des anneaux mêlés dans le mur?
Des gens de Noé et des enquêteurs. Quand un enquêteur vous dit « vous avez vu des anneaux ?» Et quand un autre enquêteur vous dit les anneaux, vous les avez vus, c'est qu'il y a probablement des anneaux. Quand des gens du village vous disent qu'il y en avait, c'est qu'on peut dire, enfin on peut penser qu'il y en avait quoi. Je n'ai pas dit qu'il y avait des anneaux, ou je me suis mal exprimé dans mon article. J'ai dit qu'on dit qu'il y en avait. Hein.
Quand vous dites les gendarmes ont découvert dans les murs plusieurs fixations d'anneaux qui avaient été meulés, ces anneaux étaient situés bas, à une cinquantaine de centimètres du sol, à hauteur d'enfant ou d'une personne devant se tenir accroupie ou à quatre pattes.
Oui.
Pourquoi vous écrivez ça?
Parce que je crois que c'est vrai.
Vous n'êtes pas dans l'interprétation quand vous dites à hauteur d'enfant ou d'une personne devant se tenir accroupie.
Vous avez raison. Vous avez raison. Mais quand... c'est de l'interprétation. Je suis d'accord avec vous. D'abord, je n'ai pas dit que n'écrivez pas que des bêtises. Et en plus, je crois que vous avez raison. C'est de l'interprétation. De toute façon, cet article que j'ai fait dans Le Monde, qu'on a fait dans Le Monde...
Avec Jean-Paul Besset.
Avec Jean-Paul, oui. C'est un article qui n'est pas méchant. Ce sont des faits qui semblent être vrais. Ça semble être tellement vrai que le procureur a fait un démenti. Ce sera à refaire, d'ailleurs, je ne le referai pas. Moi. Parce que ça, c'est le bureau des embrouilles. Ce sera à refaire, je ne le referai pas. Sauf que je suis très fier d'avoir travaillé au Monde pour des raisons de famille. J'en suis très fier. Mais ce sera à refaire, franchement, je ne le referai pas.
Pourquoi?
Parce que quand vous avez une dizaine de confrères qui le soir même s'empressent d'aller voir l'ancien propriétaire pour vous démentir, c'est désagréable. Moi, j'en veux à personne, je donne des leçons à personne, mais quand vous entendez des démentis à la radio, quand des journalistes de radio vont voir l'ancien propriétaire en disant ce que vous avez l'intention de porter plainte, en diffamation, il y a jeu dur. Quoi.
Très rapidement, Michael, que sait-on aujourd'hui sur ces révélations?
Alors, les gendarmes sont bien rentrés dans cette maison.
Vous les avez appelés. Hein.
Voilà, je les ai appelés. Mais à aucun moment, ils n'ont découvert ce qui était dans cet article, c'est-à-dire cette histoire d'anneaux mêlés dans les murs. Et par ailleurs, le procureur de Toulouse a démenti dès le lendemain les prétendues constatations contenues dans cet article, en regrettant le manque manifeste de recoupement, démenti publié dans Le Monde après l'article de Nicolas Fichot.
Très bien, merci à vous Michael, merci à tous de nous avoir suivis. Quelque chose me dit que nous n'avons pas fini de reparler de cette affaire et d'en tirer les conséquences. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel arrêt sur image à 12h38. Au revoir à tous.